Yep, là, et salut, bon mardi. La météo est pas pareille comme hier à même heure. On va se le dire. Hier, c'était plein soleil. Aujourd'hui, c'est
moche.
C'est dans le nuageuse. Nuageuse, très très nuageuse. C'est l'enfer.
Ça a pas de bon sens.
Fait pas clair. Allumez les lumières.
On va fermer la switch.
T'as-tu allumé les lumières chez vous à matin?
Non, je suis pas ce genre. Moi, j'aime beaucoup le tamiser. Le plus il y a de la noirceur, mieux je suis.
Ah, ben tu vois, le jour, faut que tu fasses le contraire.
Ouais, je sais bien, mais là...
Le soir, par exemple.
Mais c'est le fun, je trouve, le
après
matin.
Après souper, tu baisses les lumières de plus en plus. Puis après ça, jusqu'à l'obscurité la plus totale.
Mais
ben là, avant, tu fais des mamours. Après ça, c'est l'obscurité la plus totale.
Pas les importances,
exactement.
Là. Non, mais moi, le matin, prendre ma douche dans le noir, je trouve ça le fun.
Tu prends ta douche dans le noir.
Ah, oh, ouais.
On en apprend de plus en plus sur Audrey Pinchot. À chaque fois, je me dis, elle nous a tout dit. Et finalement, non. Elle prend sa douche dans le noir.
Pas une grande révélation, là, mais c'est une préférence.
Boy. Bon mardi.
Oui.
Bon. Tu passes une belle soirée hier. Retour dans le chaos. Tu étais dans un genre d'hospice là, où tout le monde faisait semblant qu'il était encore capable de respirer.
C'est-tu normal? Comme phénomène, après le silence de détester le bruit.
Ouais, moi, ça me faisait ça dans le temps quand je partais 2-3 semaines tout seul en vacances, là, dans le sud. Pas dans le sud, mais excusez-moi, quand je partais en moto aux États-Unis, mettons,
ouais.
C'est au sud, mais c'est pas nécessairement le sud comme on l'entend. Puis quand je revenais, là, voir des gens stressés, voir des gens qui étaient... on a besoin de se rencontrer pour ci, ça m'énervait. Mais je pense que c'est normal ce qui t'arrive, mais c'est juste que t'as passé 3 jours, là, fait que fais pas ta fraîche.
Non, j'ai juste passé 3 jours, mais c'est comme si là, je me sens surstimulée.
T'es surstimulée, ben oui. En réalité, on est très surstimulée
ben oui.
Dans la vie, là. Puis tu sais, il y a des gens qui font un travail hyper stressant, hyper stressant, puis arrivent des fois à la maison... Puis devant le conjoint, la conjointe. Mm. Puis là, t'as le conjoint, la conjointe qui a peut-être une job qui est quand même stressante, mais tu sais, c'est un 8 à 5 où, à partir du moment où il ferme la switch à off à 5
heures,
c'est
terminé, là, ouais.
C'est terminé jusqu'au lendemain matin où il va recommencer à faire son travail. Tandis que toi, par exemple, si t'es avocat ou si t'es avocate,
t'arrêtes jamais.
Ben, ton cerveau arrête jamais parce que là, tu sais que t'as une plaidoirie à faire demain. Fait que toute la soirée. Fait que tu sais, quand t'arrives à la maison, puis ton chum ou ta blonde est toute détendue, puis toi, t'es encore hyper crispé, puis tu dis « Hey boy, je vais avoir encore des heures à me concentrer sur mon travail. » Mais elle ou lui veut que tu sois dans le moment présent. Ah, ben ouais, c'est tough.
C'est difficile, comme on dit.
Ouais,
hein?
C'est difficile, les filles.
Non, franchement, Yannick, là.
C'était pas ça que je voulais dire.
Ouais.
Hey, aujourd'hui, on a un super de beau show. Comme à son habitude, une fois de temps en temps, Paul Lévesque vient faire son tour. Qui est Paul Lévesque? C'est une spécialiste du comportement humain. C'est une éducatrice spécialisée. Puis aujourd'hui, on apprend à Audrey à prendre sa place. Parce que prendre sa place, Audrey, sache que ça s'apprend.
C'est ça. OK, c'était ça l'objectif.
Exact.
Ah! C'est une thérapie pour moi aujourd'hui.
Oui, on est tous là pour toi. Les auditeurs, j'ai remarqué qu'ils étaient là pour toi. D'ailleurs, hier, t'as fait réagir beaucoup.
Pourquoi?
Avec ton entrevue avec le Fury.
Hey, pour vrai, là. Non, mais si tu me parles, je te dis, on va passer le show à parler d'à quel point j'ai une haine contre les gens qui se mêlent pas de leurs affaires puis
ouais.
Qui ont une opinion juste pour faire du mal.
C'est la peur qui fait parler ces
ben,
gens-là.
C'est l'ignorance.
C'est l'ignorance, c'est la peur, c'est le fait que tout le monde est dans les extrêmes en 2020. Je dis tout le monde, mais c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qu'on doit mettre dans le même panier. Mais tout dépendant si t'es sur une île où les gens sont à l'extrême droite ou l'extrême gauche, ils sont toujours en chicane. Puis toi, si t'es au centre, puis t'essaies juste de comprendre certains phénomènes, puis tu viens qu'à inviter des gens qui ne cadrent pas nécessairement avec ce qu'eux aimeraient que tu invites, ben ils vont te donner leur opinion extrême. Puis moi,
non sollicité.
J'ai masqué, effectivement. Ouais, mais les gens ont le droit à leur opinion.
Ah, t'as le droit à ton opinion, mais
Yann... Mais j'ai masqué, effectivement, des commentaires qui n'avaient aucun maudit bon sens. Puis, mais c'est 2025, Audrey. Il faut juste comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la noirceur
du monde,
la plus totale, d'un bord comme de l'autre.
Il y a des gens qui... On dirait que les gens pensent que ça date d'hier. Ça date pas d'hier, là.
Tu sais, moi, là, des gens qui voulaient pas entendre les furies hier, là, j'aimais dans la même catégorie que les filles qui voulaient pas voir des gars dans leur atelier de vélo du mercredi dans une université à Montréal parce qu'ils trouvaient que les gars, c'était tous des possibles agresseurs. C'est d'un bord comme de l'autre, ces gens-là. Je suis tanné d'eux autres, mais faut comprendre qu'ils ont le droit à leur opinion. Puis à un moment donné, ils vont venir nous rejoindre.
Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas parce que pour moi, tu as droit à ton opinion absolument, mais en toute connaissance de cause. Si tu sais pas de quoi tu parles, ferme ta gueule.
Ouais, peut-être qu'ils se sont informés sur les furies.
Ben, je pense pas.
Non.
Non, je pense pas, parce que le genre de commentaires qu'on a reçus, entre autres, sur la page de Boulevard, c'est des commentaires qui ont l'air d'être liés directement à ce qu'ils voient dans la vidéo qui présente le podcast, sans même avoir entendu aucun contenu. Je te demande pas d'adhérer à ça. Moi, demain matin, c'est pas une sexualité qui m'intéresse.
Ce que t'aurais aimé, c'est que les gens l'écoutent, puis après ça, passent un commentaire.
Ben oui, mais si toi, ça te parle pas, tu peux dire « Hey, moi, j'embarque vraiment pas là-dedans, mais c'est intéressant. Ou hey, j'ai pas été capable d'écouter le podcast, ça sonnait vraiment pas pour moi. » Mais de dire que tu comprends, c'est le fun qu'on parle de la maladie mentale, que c'est le fun. Moi, qu'on associe la maladie mentale directement à des préférences sexuelles. C'est ça qui est ironique. Hein? Il y a un commentaire que j'ai trouvé vraiment intéressant sous la publication. Il y a une fille qui écrit, elle s'appelle Raphaël, je la salue, qui écrit à...
Elle se souvient de tous les commentaires.
Non, mais elle a répondu à un homme qui a fait un commentaire un peu déplacé. Pourtant, tu sais, t'es capable, toi, d'être excité par une fille qui a l'air jeune, déguisée en écolière. T'aimes ça quand il y a des fouettes, probablement, puis quand tu peux menotter ta blonde ou y mettre un bandeau, tu comprends? Quand on a toutes nos préférences, mais parce que ça sort
d'une certaine norme... Ça commence à bien aller, l'écolière, pas plus ou moins sûr de dans mon cas.
C'est une des affaires qui se vendent le plus dans les boutiques.
Les costumes,
Les costumes d'écolière. Parce qu'il y a un fantasme là-dessus.
Fantasme de l'écolière?
Ben oui, il y a un fantasme là-dessus, c'est pas possible. Fait que ça, Mané, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Là, on a toutes nos préférences. C'est pas la tienne de mettre une tête de mascotte. Fine, je te comprends, c'est pas la mienne non plus. Mais c'est pas parce que c'est pas la mienne. Mais c'est pas parce que c'est pas la mienne, par exemple, que je trouve pas ça intéressant de comprendre puis de laisser quelqu'un me l'expliquer puis ce qu'il fait triper.
Mais les gens ont le droit de trouver ça weird. Mais moi, là où je te rejoins, là, c'est écouter ça puis après ça, vous pourrez juger parce que vous aurez entendu les explications de ce fameux furie là.
Là, tu m'as fâché, Yann. Je suis en mauvaise humeur, je me sens rouge.
Tu l'étais avant le show, je me suis dit tiens, je vais essayer de, je vais essayer de la repousser. Là après ça,
chaud, là.
On parle... j'ai le goût de te poser une question. Puis même, on va embarquer les auditeurs là-dedans, si tu le veux bien, parce qu'il y a un phénomène qui existe depuis 10-15 ans. OK? S'il me manque quelques années, là, pardonnez-moi. Mais les fameux commentaires pour évaluer un service à la clientèle d'une boutique ou encore d'un restaurant, fameux commentaires pour évaluer les restaurants qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que tu en as déjà fait, toi?
Des avis Google, genre, là?
Ouais, des avis Google, ou directement donner ton opinion sur le restaurant, sur leur page Facebook.
Oui, je l'ai fait à quelques reprises quand on me le demandait. Souvent en voyage ou quand tu fais des activités, ils vont te dire, hey, pour aider la business, on aurait besoin, si tu peux laisser un commentaire, tu sais. Dans ce temps-là, je le fais, ça me fait plaisir. Sinon, c'est quand même assez rare, je te dirais, que je mets des avis sur Google, pour être bien franche, là, je le fais pas beaucoup. Mais je sais que ça peut aider les restaurateurs parce que malheureusement, un mauvais commentaire peut faire shut down une business assez rapidement.
Moi, j'ai décroché quand je voyais, exemple, les cotes des téléspectateurs versus les cotes des experts quand je regardais sur Cinoche.com. Mm. Tu sais, les films, l'appréciation des films. Bien souvent, les experts, c'était comme 2 étoiles sur 5. Les téléspectateurs, c'était 4 sur 5. Puis j'allais voir le film pareil. Puis là, j'étais là, c'est vraiment des experts. Tu sais, les experts se trompent. Puis on dirait que j'ai comme passé à côté de tous ces trucs-là parce que je me dis, ça se peut qu'on soit pas toutes, qu'on trippe pas toutes sur les mêmes affaires. Si tu vas sur TripAdvisor, exemple, bon, tu sais, moi, ma conjointe avait regardé l'hôtel où on allait, puis il y avait énormément de commentaires qui étaient négatifs, et moi, de lui dire, ben, ma conseillère voyage, qui est Mel Guillemette de Voyage Aquaterra Lévis, m'a dit que c'était un super de bel endroit pour aller où on va être diverti. Puis, il y a d'autres endroits sur le site où tu peux être détendu. Tu as plusieurs atmosphères. Puis, c'est ça qu'elle m'a dit. Fait que là, je dis, les commentaires que les gens ont mis, c'est des gens qui sont insatisfaits, mais est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se promener sur le site? Puis,
ouais,
il y avait différents endroits avec différents mots.
Il y en a qui me marquent, par exemple.
Puis là, tu lis ça, puis c'est une catastrophe. Fait que moi, j'ai lu ça avant de partir. Puis là, je rappelle Mel. Je dis, t'es-tu sûr de l'hôtel où tu m'envoies? Puis là, avec sa voix de princesse, m'a dit « Yann, là, t'arrêtes de me niaiser! C'est là que je t'envoie! Je t'ai jamais déçu! » J'ai dit « OK, c'est bon. » Je dis « On va y aller pareil! » Parce que j'ai convaincu Mel. Non, mais on y était pareil. Puis finalement,
bon?
C'est un des plus bels hôtels où on a été. Puis on y allait avec les trois moods. T'avais un mood extrême, là, où c'était tout le temps le party. T'avais un mood moyen. Puis t'avais un mood vraiment soft, là où les gens en fin de vie avec un soluté sont. Puis là, ils écoutent des tunes de Safia Nolin. Mais moi, j'étais comme
ça,
tout le temps...
c'est vraiment pas caricaturé, là.
J'étais tout le temps comme dans l'intermédiaire ou dans le party.
Ouais.
Fait que j'étais...
T'as trouvé ton compte.
J'ai vraiment trippé. Mais si je m'étais basé sur les commentaires du TripAdvisor... ça aurait été une catastrophe. Puis en jasant avec des chums qui sont en affaires, autant hommes comme femmes, ces gens-là sont pas mal écœurés des histoires de des notes Facebook ou encore des notes sur Google, les
oui,
fameux
que,
avis Google.
Il y a du monde que pour faire du mal vont aller écrire à peu près n'importe quoi aussi. Le fait que c'est dur de s'y fier. Là.
Audrey, ce qu'on m'a raconté, puis je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pas raison de douter de ces gens-là. 418-971-1021.
Les achats de commentaires?
Bien souvent... il y a des entreprises qui payent pour écrire des commentaires positifs à votre égard.
Mm-hmm.
Okay? Mais aussi, les commentaires négatifs peuvent être faits par les propriétaires du restaurant d'en face, ainsi que leurs employés.
Ça, c'est dégueulasse.
Ainsi que leur famille. Mais à partir du moment où tu te rends compte que la personne qui critique ton commerce n'est jamais rentrée dans ton commerce, n'a jamais consommé un plat, n'a jamais consommé un verre, et jamais juste passé dans le restaurant pour aller aux toilettes, mais elle a écrit un commentaire négatif, tu peux pas le faire enlever.
Non. Ça laisse des traces.
C'est cruel à mort. Et les hommes et les femmes d'affaires sont un peu écœurés de
ben,
ça.
Moi, tu vois, c'est un ami qui a un restaurant dans le Vieux-Québec qui m'avait dit à un moment donné, « Hey, peux-tu me donner un coup de main? Aller écrire un avis positif. » On a eu des tatas au resto qui ont été vraiment dérangeants. Puis pour semer la pagaille, ben, ils se sont mis à la gang et sont allés mettre plein de notes négatives sur Google, ce qui fait qu'on a des mauvais reviews en ce moment. Puis ça a un impact. Je trouve ça vraiment poche. Mais moi, par exemple, je vais me fier à des affaires précises quand j'ai les commentaires. Parce que justement, si c'est juste un avis général, le restaurant est vraiment moche, mauvais service, je me dis ça, c'est tellement trop personnalisé que ça marche pas, tu sais. Mais une affaire comme la propreté, quand on nomme un plat précis ou un... ça, tu vois, souvent, ça va m'indiquer un peu plus quelque chose de véridique. Comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. Tu donnais ton exemple d'hôtel, là. Moi, si on dit la propreté, ça marche pas en tout dans cet hôtel-là, c'est dégueulasse, mais moi, ça, je sais que c'est vraiment une priorité, bien, peut-être que je vais éviter d'y aller. Il y a des affaires, je pense, qui peuvent fonctionner, puis il y a des trucs, effectivement, qui sont peut-être à pas considérer, là. Tout ce qui est général, moi, normalement, j'en prends pas conscience.
De plus en plus d'hommes et de femmes d'affaires sont écœurés de ça, les gens de mauvaise foi, là, et décident de poursuivre ces gens-là. Ça peut aller entre 15 000 et 30 000 $ de ce que je peux comprendre. Bon, entre 15 000, 20 000 et 30 000 $ en dommages. Puis, bien souvent, quand ça se ramasse en cours, ça va à l'avantage du commerce.
Oh,
parce que la personne, au lieu de rédiger un avis négatif sur son expérience, va se permettre de juger absolument tout, va se permettre de dire aux gens, n'allez jamais dans ce commerce-là, vous allez être automatiquement déçu. Puis là, le propriétaire du resto ou du bar va dire, ben moi, savez-vous quoi? C'est parce que là, cette personne-là fait de la diffamation à mon égard. Même si c'est vrai, en passant, vous pouvez payer un 10 000, un 15 000, un 20 000$ en dédommagement au propriétaire de l'endroit où vous faites une critique.
Oui, mais si c'est vrai.
Puis ce qu'on conseille, parce qu'il y a des avocats qui se sont penchés là-dessus, c'est de pas rédiger le soir même le fameux avis. Là,
pour pas être en trop plein d'émotions.
Négatif. On dit que ça prend un temps de réflexion. Ne jamais publier sous le coup de l'émotion. Nuancer vos propos en mentionnant des aspects positifs au travers de l'expérience. Employer un ton poli et courtois, parce que si tu traites le propriétaire de trou de cul comme quoi c'est un gars qui sait pas vivre, tu t'attaques à sa personne. Si tu incites les gens à ne pas aller dans son commerce-là, tu t'attaques à son chiffre d'affaires. Et techniquement, tu n'as pas le droit de le faire, même si le gars, c'est vraiment un trou de cul.
Si c'est de la merde. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit sur Twitch, j'ai déjà un concessionnaire auto qui m'avait appelé pour me demander d'enlever mon avis Google négatif. Il y avait vraiment eu un mauvais service, vente à pression, j'avais détesté ça. J'avais dû le menacer d'aller en cours pour qu'il me lâche. Fait que, tu sais, ça se fait de l'autre côté aussi. Puis c'est vrai, par exemple, qu'il y a moyen de faire des critiques de façon constructive, là. C'est juste que quand des fois, t'es méprisé par un commerçant,
ouais,
c'est dur de garder ton calme.
Moi, j'ai ma petite théorie à Saint-Saëns là-dessus.
Okay?
Parce que je continue avec les conseils. Restez dans votre expérience personnelle, restez factuel, ne pas te donner des propos mensongers ou exagérés. Évitez les campagnes de dénigrement, comme inciter le consommateur à partager son commentaire ou à ne pas faire affaire avec l'entreprise, parce que c'est ça qui va vous mettre dans le trou. Mais ma petite théorie à Saint-Saëns, c'est, tu sais, quand t'en as jamais fait d'avis Google, puis là, t'es tellement fâché que tu vas en faire un, puis tu dis, garde.
Check-moi bien.
M'a fait partie de la Ligue nationale des avis Google, puis t'en rajoutes, c'est là où ça déborde, c'est là où tu peux te mettre dans le trouble. Donc, ce qu'on dit, des avis Google, tu peux en faire, mais reste dans ton expérience personnelle, rajoute-en pas plus que le client en demande, puis si tu peux être le plus factuel possible, donc qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, tu t'en tiens juste à ça, t'auras jamais de problème.
Ah, c'est pas fou. En fait, vous, 88-971-1021, c'est comme si je prends pas le temps. Puis moi, souvent, quand je vais prendre le temps d'écrire un commentaire ou de ça va être dans le positif, parce que j'ai tellement trippé que j'ai envie de le souligner.
Mm-hmm.
Mais c'est rare que ça va être dans le négatif. Il y a
Dit qu'il y a un reportage de La Facture ce soir à 19h sur ce sujet-là, 19h30 sur ICI
Télé,
donc à Radio-Canada. Fait que ça va être à écouter si vous le désirez.
Il y a quelqu'un qui nous dit « Avis Google, je me fie moins depuis mon voyage à Paris en février. On cherchait un resto italien. On en trouve un 5 étoiles, des bons commentaires. On est super contents. Puis finalement, on y va. Puis grosse déception totale. J'ai compris pourquoi les bonnes notes, le serveur à la fin du repas donnait un rabais si tu remplissais l'avis Google devant lui. » Il y a ça aussi. Moi, c'est en voyage, là, souvent, c'est quand tu prends des activités. À la fin, là, dans l'autobus, là, ils te remettent un petit code QR, là, puis ils te disent que ça serait vraiment cool que tu mentionnes leur nom puis que tu fasses l'avis parce que ça les aiderait à garder leur emploi. Puis ils te badigeonnent ça bien comme du monde.
Ben, ils te mettent de l'émotion, c'est ça.
Ben,
si
oui.
T'as trippé, ils vont te dire « Hey, c'est sérieux pour nous aider.
Hey, » mais offrir un rabais...
Veut que ça fonctionne.
Ça, c'est dégueulasse, là. Ouais. Sérieusement, ça fait pitié, là.
Mais c'est ça. Je me suis toujours méfié des avis Google parce que je savais qu'il y avait énormément de crosses là-dedans. Puis il y a des entreprises qui vendent leurs services justement en rédaction d'avis Google. C'est juste hallucinant. Donc, bref, moi, ce que je vous dis, c'est faites exactement ce que la gang de Radio-Canada mentionne, là. Restez dans le factuel. Allez-y pas trop dans le personnel, c'est-à-dire le style d'enfant de chienne de propriétaire m'a regardé comme si j'étais de la merde.
C'est un mardeur!
Je l'aurais fessé. Allez jamais là, parce que c'est là où vous allez vous ramasser avec des gros, gros problèmes. Puis bien souvent, dans les histoires de poursuites, les seuls gagnants, c'est les avocats.
Ouais.
Puis quand je dis ça à Maître Bellemare, il trouve
pas
jamais
ça.
Drôle.
C'est bien sûr.
Il la trouve jamais drôle.
Oh là
fait
là.
Qu'aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Paul Lévesque,
oui.
Spécialiste du comportement humain. On va apprendre à Audrey à comment prendre sa place.
Arrête de dire ça.
Des
tu
fois,
que je prends pas
dit,
ma place.
Hey, faut que je prenne ma place. Puis là, elle la prend trop. Mais là, on va essayer de régler ça avec Paul. Sinon, Bob Bissonnette s'en vient avec mettre du tape sur ma palette. C'était la fin de ma saison de décaquer hier.
Oh, comment tu te sens?
Je me sens... ben là, il y en a une autre qui va recommencer dans quelques semaines. Là.
Mm.
Mais je me sens triste.
Sans
vide. C'est une année de plus où je vieillis encore.
C'est difficile.
Où les jeunes vont rentrer dans notre ligue, puis à 18, 19 ans. Tu sais que,
ouch!
Tu sais que je
joue
au hockey dans mon équipe, là. Je joue au hockey avec des gars qui pourraient être grands-pères. Là.
Mon Dieu, Yann!
Puis ils pourraient jouer avec contre leurs petits-enfants. Là.
C'est fourrette quand tu y penses. Là.
Pense-y 30 secondes.
Ouais.
Puis c'est un peu hallucinant. Nous autres, on est une équipe, on est quasiment l'équipe de quinquagénaires. Là. On joue contre des jeunes de 18, 19, 20 ans qui nous traitent de tapettes. Là.
Je trouve ça bon, là.
Hey, les tapettes! Quoi?
Mais moi, non, mais ce mélange-là de générations...
T'as le goût des fessées, mais t'as pas le droit, là, parce que
mais
c'est un 2 minutes
sûr,
de pénalité.
Là, voyons.
Là. Voyons donc, c'est quoi ces histoires de gros mots-là?
Tu devrais leur apprendre à changer leur vocabulaire, par exemple.
Ouais, mais c'est ça. Ils vivent leur jeunesse, puis à un moment donné, ils vont rencontrer leur mur, mais c'est assez hallucinant. Mais c'est ça, c'est une autre saison qui se termine de décoquer, là. Les séries vont commencer... Mais je trouve ça triste année après année parce que je me dis c'est une année de moins qui me reste à jouer au hockey ou encore au déco-hockey.
Ben là, t'en as encore pour un bout, là. Tiens-toi en
je
forme.
Je le sais
pis...
pas.
Ben voyons, t'es strap à ce point-là.
Les blessures, là, c'est il y en a beaucoup dans mon équipe. Là, tu sais, j'ai Guy qui joue avec nous autres, s'est fait opérer aux hanches. Moi, il faut que je me fasse opérer prochainement à l'épaule à un moment donné pour me faire ramancher tout ça pour que ça arrête de débarquer. On est une couple, il y en a un qui avait un problème à mâchoire, qui n'a pas pu jouer pendant une partie de l'année.
Soin de vous autres.
Un autre de nos joueurs, qui est un ancien joueur de foot universitaire, qui est une montagne, mais qui a eu des problèmes de santé cette année, puis qui a dû, je pense qu'il a raté 5 ou 6 semaines.
Mais votre problème, c'est que...
On vieillit.
Ben, vous vieillissez, mais vous prenez pas soin de vous autres non plus. Quand il y a une blessure, là, ça va passer. Ça va passer. Je t'ai vu boiter ici pendant 3 jours, mais pas le contraire, là. Tu t'es pas fait traiter, là. Ça va passer. Si tu te faisais traiter, puis que tu faisais attention, tu gagnerais des années de décoquer.
On est tough!
Ouais, c'est ça votre problème.
On est tough! Ouais, Bob Sonnette, mettre du tape sur ma palette s'en vient dans les prochaines secondes et on aura les nouvelles de Max et les sports.
Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 102.1.
All right, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, merci d'être nos yeux, nos oreilles, ça fonctionne par texto. Hey, je vous en parle pour une dernière fois dans ce show-là, donc soyez alerte, soyez à l'écoute, parce qu'on a une belle promotion à la station, une promotion qui est incroyable. Le Rock'n'Ball, c'est une paire de billets pour aller voir le show de Linkin Park le 1er août au TD Garden de Boston. Le côté ball, ça va être les Red Sox au Fenway Park, 2 billets. Contre les Astros de Houston. Là-dessus, on vous inclut dans cette belle promotion-là qui est offerte par Dernet Pneus Mécaniques et Nokian Tires. Le vol, l'hébergement, 500$ en argent. Et pour participer, c'est assez simple parce que dès que vous entendez une toune de Linkin Park, vous notez l'heure, vous allez l'inscrire directement sur le site blvd.fm. Et à chaque jour, avec Gravel et Véro et comment ça s'appelle l'autre? Audrey, on attribue un finaliste qui va être nommé à la finale. On va se le souhaiter, du moins. Donc, c'est 3 participations par jour qui sont permises. Nokian Tires, demain, avec Reg, vont faire tirer 4 pneus d'été. Donc, c'est d'une valeur de plus de 1 000$. Et c'est possible grâce justement à Nokian Tires, mais aussi à Dernet Pneus et Mécaniques. Donc, dès que tu entends une toune de Linkin Park, directement sur le site blvd.fm et tu marques là. Puis, je te souhaite bonne chance. 10h28, on revient.
C'est le dernier blitz pour participer.
10h34, c'est 8 degrés sur Québec. À certains endroits, si vous êtes dans la grande région de Québec, il a commencé à pleuvoir. Est-ce que c'est le cas, Audrey, dans le secteur Le Bourgneuf?
Oui, ouais, ça mouillasse.
La petite pluie. Ça va être ça toute la journée, les amis. Fait qu'on va l'accepter. Hein? On va passer par la phase d'acceptation.
La résilience.
De la pluie pour ce soir. 5 mm annoncés, minimum de plus 4 degrés. Demain, mercredi, c'est de la pluie avec un maximum de 6. Et jeudi, ben là, c'est un ciel dégagé avec un maximum de 7. Et vendredi, un maximum de 11 avec quelques nuages. Et je m'arrête là parce que pour l'instant, le soleil, on devrait le revoir pour de bon dimanche 20 avril. C'est le congé de Pâques en fin de semaine.
Ben oui! Ce qui veut dire que nous, on passe la soirée, peut-être la nuit ensemble jeudi.
Pardon?
Jeudi, on a un show spécial.
J'ai réussi à enlever toutes les rumeurs qu'il pouvait y avoir entre moi et Pascal CV.
Faudrait pas en partir d'autres.
Puis là, toi, tu pars cette rumeur-là, comme quoi on va passer la nuit ensemble.
Je trouve que c'est une belle façon de le dire.
Non, pas tant. Non, OK. Ça serait pas à ton avantage.
On va passer... On va passer du temps ensemble à travailler.
Parce qu'on fait un open mic sans limite. Exact. Fait qu'on va... je pense que c'était à quelle heure? 19h?
Ben moi, je pensais que c'était à 20h, mais j'ai appris hier que c'était à 19h.
19h-20h, on ouvre la switch à 1, puis on jase avec tout le monde.
Ad vitam aeternam.
On a quelques invités qui sont planifiés. C'est nos préférés qu'on a invités. Fait que les autres, on vous aime pas tant.
C'est ça, c'est le message.
Ou vous coûtez trop cher.
Il y a peut-être de ça aussi.
Mais on va passer une belle soirée, puis on sait pas trop à quelle heure qu'on va quitter les ondes.
On va avoir besoin de vous autres en passant. On va se connecter sur le Twitch. On va être sur live TikTok aussi.
On va jouer à des jeux.
On va jaser toutes sortes d'affaires. Il y a comme pas de plan. C'est ça qui est particulier. Là.
Non. Tom m'a dit tu veux-tu une musique? De la musique? Il dit parce que ça vous donnerait un break. Je dis, non, pas de break.
T'as dit OK, génial. C'est ça, on va parler. C'est vraiment drôle parce que ce show-là va être construit à partir de vous. Fait qu'on va avoir le Twitch puis le TikTok ouvert en live, les textos aussi. Mais tu sais, vous avez envie d'appeler, on va faire la ligne ouverte, on va un peu ramener ton last call, là, tu sais.
Exact. En fait, ça va être un mélange de show tard et last call, comme je faisais dans le temps, comme j'ai fait il y a de ça plusieurs années. Puis souvent, ça donne quelque chose de vraiment nice.
Je pense que ça
parce
va être
qu'on se transforme en genre de taverne où tout le monde jase ensemble.
Ouais.
Puis c'est vraiment trippant. Donc, jeudi à partir de 19h, on ouvre les ondes, puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va quitter ça. Hey, j'avais plein de trucs à vous jaser. Ah, ben on va commencer par accueillir une personne qui va être avec nous jeudi soir. C'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, qui est avec nous. Salut, Paul.
Ben bonjour.
T'es en forme?
Oui.
Ouais. Hey, oui. Tu sais quoi, j'ai réussi à influencer d'une manière positive. Je prends un ton bizarre, mais j'ai réussi à influencer d'une manière positive Audrey dans ma vie. Je pensais jamais être capable de le faire, mais il y a de ça quelques mois, je lui ai parlé d'une expérience que j'avais faite. Okay? C'est une expérience où je devais passer 3 jours dans le silence total, à ne pas parler à personne, à ne pas avoir de technologie, mis à part peut-être l'électricité pour la lumière qui était dans les pièces. Et j'avais été à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.
Oui, oui.
Et j'avais trippé comme pas possible. Bon, la première journée, bon, je pensais que j'allais avoir un peu de plaisir avec moi-même. Mais quand j'ai vu le crucifix sur le mur de la chambre, je me suis dit, on va peut-être passer à d'autres choses. Fait que j'ai lu beaucoup en 3 jours. J'ai écrit beaucoup en 3 jours. Puis ça a été pour moi un genre de révélation pour moi où il y a des choses que j'ai laissées à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac que je ne traînerai plus jamais avec moi. Puis Audrey a fait l'exercice en fin de semaine.
Tu l'as fait, Audrey?
Puis ce qui me fait peur, c'est qu'elle veut y retourner.
Ouais.
Je suis impressionnée.
Ah, c'est...
Tu n'as pas parlé pendant 3 jours?
J'ai pas parlé pendant 3 jours, ce qui est un exploit.
Elle n'a pas énervé personne.
Mais je suis arrivée le vendredi soir, puis bon, je suis repartie le dimanche en fin PM. C'est extraordinaire comme endroit, là, en partant. Là. Quand tu veux juste aller visiter, c'est beau, oui. C'est beau, ça n'a aucun sens. Mais d'être à l'intérieur avec les moines, d'avoir accès justement au volet plus hôtellerie. Ah, c'est bon, ça.
Bon, là, faisons pas semblant. Là, j'ai oublié de fermer mon téléphone.
Non, on va l'assumer. Là.
Non, je l'assure, puis il fait exprès. Prends mon sac à dos, puis... Hey, je suis tellement désolée. Mais ça vous montre au moins que quelqu'un m'aime.
Ben oui.
Ou c'est une urgence.
Peut-être. Ben oui, regarde, c'est une urgence. On voudrait pas te...
Non.
Tout est beau?
Ben, on sait pas. On va le savoir tantôt.
Fait que c'est ça a été extraordinaire. Ça a été un 3 jours, c'est ça, en silence où tu tombes dans des grandes réflexions, tu observes beaucoup. Il y a des sens qui s'allument à nouveau, en fait. Tu sais, moi, je me rends compte, puis c'est ça que je disais à Yann hier. Tu sais, moi, chez moi, j'ai la forêt pas loin, puis quand je m'en vais prendre une marche, j'ai l'impression qu'il est là, le silence. Mais là, d'être dans un endroit réellement silencieux, bien, tout d'un coup, la nature devenait bruyante. Les oiseaux, le vent, l'eau que j'entendais, tu sais, des choses que je percevais peut-être plus au
quotidien. Parce que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses, puis on est loin des drogues. Puis tu sais, moi, je bois pas tant. Je bois de la Coors Light. Mes chums me disent que c'est pas vraiment de l'alcool. Mais puis je bois un peu de vin, puis mais c'est pas mal mes seules petites drogues que j'ai. Mais quand je pousse, là, l'Internet est une drogue. La télé est une drogue. Netflix, Prime Video, tout ça, c'est toutes des drogues. Puis quand t'arrives là, t'as rien, t'es seul avec toi-même. Puis les premières secondes, je sais pas si Audrey, ça a été ça, mais moi, j'ai paniqué. C'était un peu 3 jours ici, là, dans une petite chambre où je pouvais faire le tour de l'abbaye et tout ça. Je suis pas religieux pour Saint-Saëns. Je me suis dit, je vais m'emmerder. Puis pourtant, ça a été une des plus belles expériences de ma vie.
Oui, c'est vraiment un incontournable pour vrai. Est-ce que tu as déjà fait une retraite silencieuse, Paul?
Non.
Je te souhaite de prendre ce 2 jours-là pour y aller. Tu sais, la ride est 2h30, presque 3h en partant. Fait que t'as toute la route pour te préparer mentalement. Puis on dirait que la route du retour est encore plus le fun parce que t'as comme envie que ça perdure encore un peu dans le temps, ce silence-là. Tu sais, ça a l'air vraiment ésotérique là, quand on en parle comme expérience, mais pas du tout. T'en fais ce que tu veux de cette expérience-là. T'es pas obligé de la messe, là. Et tu peux t'amener des livres, tu peux écrire. T'as le droit, si tu veux, tu peux t'amener de la musique là, sur un MP3. Là. Moi, je te conseillerais vraiment le silence total. Mais tu sais, tu vas te promener dans la nature. C'est la base.
On n'est plus habitué au silence.
Des vieilles bibliothèques d'antan, là, avec des plafonds hyper hauts, avec un feu de foyer.
Magnifique.
Tout est vieillot. Moi, je passais des heures et des heures dans cette bibliothèque-là. J'allais beaucoup dormir à la chambre. Puis le soir, quand je finissais mon petit sommeil, j'allais me promener dans l'abbaye, j'allais me promener autour. C'est vraiment, mais vraiment...
Puis tu manges avec tout le monde?
Tu manges avec tout le monde, mais dans le silence. Puis Audrey les a pas vus. Mais il y a comme un mélange homme-femme là-bas. C'est des frères qui travaillent pour l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Puis il y a les sœurs cloîtrées aussi. Puis elle, là, quand il mange à côté de toi, là, t'as l'impression que tu manges à côté des fantômes. Là. Elle ne parle pas, elles regardent leur assiette, elles ne font aucun bruit. C'est hallucinant. C'est leur vie à eux, c'est de rester dans le silence, de rester cloîtrés. Puis ils vouent leur vie à quelqu'un qui rentrera jamais.
Puis tu te sens coupable, là, Paul, de manger quasiment parce que tu entends un bruit de bouche de tout le monde. Dans le sens qu'il y a tellement rien d'autre que tu entends la fourchette frotter le fond de l'assiette. Oui. Honnêtement, tu apprends à ralentir aussi parce que là, plus les gens se lèvent puis ont terminé de manger, plus moins t'es de monde, plus t'entends les bruits de un et de l'autre, tu sais. Puis là, t'en viens qu'écoute, tu fais tout pour pas scratcher le fond de ton assiette, t'essaies de manger lentement, c'est quelque chose.
Mais c'était une belle expérience.
C'est un décalage horaire complet avec nos styles de vie, là. On est à l'opposé.
Oui, tu te rends compte de plein de choses. Audrey, ce qu'elle s'est rendu compte hier, c'est que la vie va vite en tabarouette, puis il y a plein de bruits. On est constamment bombardé de bruits.
Ben, puis même que c'est ce que je dis à Yann en début de show, c'est niaiseux, là. C'était juste dans le fond trois jours, là. Mais depuis hier, c'est comme si là, le bruit m'atteint plus, m'énerve un peu plus. C'est rien, là, tu sais, c'est vraiment une... Mais c'était tellement une cassure drastique avec notre quotidien que là, c'est comme s'il faut que je me réadapte là, à comme un environnement, au-delà d'un environnement bruyant, même à chez nous, là, la télé ouverte, la radio, le ci, le ça, le bruit de mon chum qui vit là, tu sais, puis tandis que là, j'étais tout seul avec ma respiration. Non, je te souhaite vraiment d'aller là une fois dans ta vie, puis je veux le répéter pour les auditeurs. Un, c'était à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac.
C'est magnifique, je suis déjà allée à l'abbaye.
Ah, oh, c'est beau.
Il y a quelque chose d'obligatoire dans le lâcher-prise quand tu arrives dans ces endroits-là.
Ouais.
Je peux pas te dire, puis tu sais, je suis pas religieuse et croyante, mais il y a quelque chose de mystique plus grand que toi.
Oui.
Je sais pas si c'est l'environnement, la façon dont les autres se disposent autour de toi, là, tu sais.
La simplicité.
Puis le pas dans le corridor rebondit, tu sais, il y a quelque chose de... Ben, qui n'est pas dans ton connu, qui est dans ton inconnu.
Puis c'est accessible, hein? En passant, c'est ça que je veux répéter, c'est pas cher. Il suggère 85 par nuit, tu as tes trois repas d'inclus là-dedans, puis bon, t'es hébergé et tout, là.
85 logés nourris par nuit.
Oui, c'est ridicule comment c'est pas cher. Calcule juste un resto, là.
En tout cas, ils font pas de l'argent avec ça, là.
Non.
Non, vraiment pas.
C'est vraiment plus dans la mission.
Sauf que tu peux pas partir de là sans acheter les produits du terroir, là.
C'est incontournable, là.
Oui.
Hey, je te dis, oui. C'est bon, les fromages.
Ah, les fromages sont incroyables.
La compote. Oui. Fait que c'est ça, c'est là que je suis allée, en fait, semaine passée.
Ouais, c'est une belle expérience.
Mais quand tu y vas, tu as une intention. C'est-à-dire que tu y vas parce que tu as une intention.
Et moi, c'est un défi que je voulais faire. C'est un de mes chums qui m'avait donné ce défi-là. C'est un gars qui y va 4-5 fois par année. Jean Nadeau, je ne sais pas si tu connais Jean Nadeau, c'est un conférencier. Puis il a dit, essaye-le, tu vas voir, tu m'en reparleras. Je l'avais fait, puis écoute, je vais y aller au moins une fois par année. Audrey veut y aller 2-3 fois par année.
Ben moi, je vais y aller au moins 2 fois par année. Je me suis dit, printemps, automne, tu sais, pour casser le beat où tu te sens moche, là, tu sais, où tout est comme lourd. Je me dis, ça va peut-être ajouter un peu de beau. Puis il y a un auditeur qui nous dit, je suis même pas capable d'accoter ça chez nous, le silence, imagine.
Ben, c'est, écoute, je trouve ça intéressant comme commentaire parce que je me dis, on peut y aller par exposition, par petite étape. Tu sais, des fois, ça te fait peur de dire, hey, 3 jours, ça n'a pas de bon sens. Donne-toi des petits défis puis vois comment tu les relèves. Juste d'arriver à la maison, de rien ouvrir, puis de mettre ton téléphone dans une cage. Là, mais tu sais, juste de supporter peut-être 1 heure, 2 heures, puis de se donner cette permission-là. Au fond, ce que vous dites, c'est... Une fois par année, 2 fois par année, c'est intéressant. Mais est-ce que ça nous amène à se rendre compte que finalement, ben dans notre quotidien, on est très, très loin de se donner du temps de silence?
Puis
vous parlez, mais moi, je fais beaucoup d'insomnie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insomnie. Donc, je passe beaucoup de temps avec moi, seule, dans le silence. Tu sais, veux pas, je veux dire,
Tu peux pas vraiment faire de bruit.
Ben là, non. Puis tu sais, j'ai pas envie de commencer à faire... Puis ça m'oblige à avoir ce temps-là. Au lieu de paniquer puis de dire « je dors pas encore », je me dis « t'as du temps pour toi dans le rien autour ». Tu sais, j'irai pas ouvrir un écran, j'irai pas... Puis ça t'oblige justement à te déposer à... C'est pas à la hauteur de 3 jours, mais on est sollicité constamment. Puis... On vient pas bien dans le silence, même dans une conversation, même quand tu es avec quelqu'un. Supporter le silence, c'est impossible. Quelqu'un fait juste prendre le temps de réfléchir, puis tu te sens pas bien dans ce silence-là. On n'est plus habitué au silence. Puis avez-vous remarqué comment l'acouphène est de plus en plus présent chez les gens de plus en plus jeunes? Parce qu'on est constamment en train de solliciter les oreilles.
Ouais. effectivement. All right, Paul Lévesque, oui. C'est un beau sujet qu'on a choisi aujourd'hui, puis c'est drôle parce que j'avais vu une conférence il y a de ça quelques années qui s'intitulait, oh boy, de mémoire, c'était « Cesse de regarder ta vie, vis ta vie ». Puis en gros, ben, ça prenait, c'était l'histoire de quelqu'un qui devait prendre sa place dans la vie, qui avait toujours été assis sur le siège du téléspectateur pour regarder ce qui se passe dans sa vie sans jamais vraiment prendre part à sa propre vie. Je sais que ça peut peut-être être bizarre à dire, mais il y en a beaucoup qui subissent leur vie plutôt que de vivre leur vie. Aujourd'hui, le thème, c'est « Prendre sa place ». Prendre sa place, ça s'apprend.
Oui, ça s'apprend. Tout s'apprend. Je suis une musicienne et j'ai compris que tout se pratique. Mais on ne sait pas quoi pratiquer. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie d'attirer votre attention parce que prendre sa place veut dire... Ça veut dire arrêter de subir, arrêter de demander aux autres de combler ce que tu ne peux pas te donner, puis arrêter de s'empêcher. Parce que quand tu ne prends pas ta place, ben tu ne te sens pas bien, puis tu évites. Tu évites d'aller à des endroits que tu voudrais... Tu sais, puis il y a des gens qui sont plus imposants que d'autres. Mais prendre sa place, c'est comprendre que j'en vaux la peine aussi. Puis que moi aussi, je peux vivre la vie que je veux puis être sur mon X.
Ça essaie d'être un téléspectateur.
Oui, puis arrêter de penser que les autres doivent nous donner cette place-là. C'est à nous autres de la prendre. On va demander, ouais, mais si l'autre n'était pas comme ceci, si l'autre me donnait cette place-là. En fait, les autres vont prendre la place que tu ne prends pas dans ta propre vie.
T'as-tu l'impression que la majorité des gens qui ne prennent pas leur place considèrent qu'ils ne méritent pas leur place?
Il y en a, oui. Oui.
Puis c'est un problème d'estime de soi à la base.
Hey, je te dis qu'il y a un paquet d'affaires qui partent de l'estime de soi pareil.
Hey, c'est fou.
Hey, hein? Combien de fois on a eu une discussion, là, puis ça partait de l'estime et de la confiance. Parce que prendre sa place veut dire « Hey, je suis là, puis j'existe, puis je le mérite. Mm. Puis je suis pas n'importe qui, moi
le
aussi. »
Le respect que tu te donnes.
Oui.
Puis, je sais pas si c'est dans notre ADN, mais on a toujours eu l'impression au Québec qu'on était né pour un petit pain.
Hey, oui. Ça, c'est judéo-chrétien. On parlait de l'abbaye. Il y a quelque chose de judéo-chrétien où... Garde juste, on te flagelle la joue droite, tend la joue gauche, en tout cas, quelque chose comme ça. Tu sais, dans le langage populaire, c'était... là, je vais dire les femmes, parce qu'à l'époque, hein, on n'avait pas le même traitement. Les femmes devraient souffrir en silence. Les femmes n'avaient pas le droit de jouir. Prends juste prendre sa place dans le couple. Puis là, je te dis que c'était féminin, mais il y avait plein d'autres éléments où les enfants n'avaient pas le droit de parole, par exemple. Il y avait des familles de 12, puis c'était « ferme ta gueule », puis ils ne parlent pas, puis il y avait beaucoup de non-dits. Fait qu'il y a eu quelque chose dans le judéo-chrétien où on a appris en tant que... Puis encore aujourd'hui, on s'empêche de clamer haut et fort ce qui n'a pas de bon sens. On n'est pas capable de s'entendre. Hein? On ferme nos gueules parce qu'on se dit, si je parle, ben on va me rabaisser ou on va me critiquer ou on va... Mais moi, là, je pense que quand on te critique, c'est que tu as existé. C'est parce que tu as osé dire.
Tu as fait quelque chose.
Puis quand on te critique, ça veut dire que tu as parlé. On aime bien mieux de critiquer positivement. Là. Je ne suis pas en train de dire « chez nous » à matin.
Non, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que si tu ne fais rien, si tu n'essayes rien, ben, tu ne seras jamais critiqué. Là. Jamais. Là.
Non. Puis le premier élément quand tu veux prendre ta place, c'est de regarder justement comment toi, tu parles de toi-même. Parce que je crois qu'on est un panneau publicitaire. Ce qu'on pense de nous, devient un panneau pour les autres. La façon de te positionner, la façon de choisir tes mots, la façon de regarder l'autre vient en lien avec comment tu parles de toi puis comment tu te vois, toi. Puis je trouve qu'on est aussi dans notre propos et dans notre discours, c'est comme si on était dans l'auto-accusation. Avez-vous remarqué comment, haut et fort, on va commencer par se discréditer? Ah, oh, mais moi, ouais, mais je suis pas bon comme toi, écoute, à l'âge où je suis rendue...
C'est souvent inconscient, j'ai l'impression. Tu as dit ça, puis la première chose qui m'est venue en tête, moi, j'ai une tendance à dire, en onde, au quotidien, « Hey, j'ai une question niaiseuse, là. »
Mais c'est bon, ça!
Puis tu sais, je m'en rends même pas compte, là. C'est juste, on dirait que je patche.
C'est bon! Ça, c'est un exemple parfait. Puis ça devient dans le langage quotidien, mais tu es en train de te discréditer devant les autres. Donc, tu te discrédites toi-même, puis tu finis par... te reculer au lieu d'avancer.
En même temps, j'ai connu des gens qui disaient « question très pertinente ».
Puis c'était vraiment niaiseux.
C'est exactement.
Oui. Ben on pourra revenir parler dessus, là. On a passé des habiletés sociales pas très bonnes ou de l'auto-évaluation qui n'est pas très bonne.
J'ai une question très pertinente.
Finalement, pas tant.
Non, pas tant.
Oui, il y en a qui se posent la question, qui répondent eux-mêmes. Le maire de Québec.
Le maire de Québec.
Non, mais il se pose des questions puis il se répond lui-même. Donc...
Je serais curieux de demander à un psychologue, c'est quoi, qu'est-ce qui pousse les gens à se poser des questions puis répondre? Surtout les gens qui sont dans la politique, justement. Là. Je pense que moi, c'est des techniques que ces gens-là ont apprises pour essayer de...
Ah, puis il est bon, là.
Tu sais, de contrôler le message. Mais c'est weird. Comme les gens qui parlent d'eux à la troisième personne.
Ah, ça...
Hey, on peut
ça attire mon attention
beaucoup. Tu veux
beaucoup.
Les bannir?
Non, mais dans le sens...
Pauvre Jonathan Julien.
Non, mais à quel moment dans ta vie tu te mets à parler de toi comme si t'étais tellement important que tu méritais le « il, elle » pour vrai?
Ben, tu sais, il y avait dans La Petite Vie, c'est très loin, La Petite Vie, je sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Il y avait, voyons, celui qui trompait Thérèse. Là.
Marc Messier.
Oui, on se souvient pas de son nom, mais lui, il parlait toujours de lui à troisième. C'était un super raté dans la vie, mais il parlait tout le temps de lui comme s'il était la dernière merveille du monde. Puis il parlait de lui à troisième personne.
C'est Réjean.
Réjean,
c'est ça, oui.
Le chercher.
Il était formidable.
C'est une caricature qui l'est à peine pour certaines personnes.
Mais c'est ça. Puis c'est vrai, Audrey a tendance à dire hey, « j'ai une question niaiseuse », mais oui. ça en est très souvent jamais. Des fois, ça l'est vraiment, mais 99,9% du temps, c'est tout le temps des questions qui sont hyper pertinentes que même moi, je suis dans ma voiture, j'écoute Audrey poser la question, puis je me dis « c'est pas niaiseux cette question-là, je suis dans mon char, puis j'ai cette question-là aussi ».
Mais des fois, c'est une stratégie inconsciente pour préparer le terrain.
Parce que c'est vraiment inconscient.
Oui, mais tu sais, dans l'inconscient, tu prépares le terrain pour que l'autre, finalement, soit impressionné plutôt que déçu. Tu sais, quand tu dis qu'un film va être bon, va être bon, va être bon, va être bon, t'arrives là et tu fais, ben finalement...
Baisser les attentes, en fait.
Oui, en baissant les attentes, puis c'est dans l'inconscient, en baissant les attentes, tu finis par impressionner plutôt que décevoir.
Tu comprends? Ça a-tu un rapport aussi avec le fait de vouloir rester humble un peu? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de prendre leur place, de prendre le spotlight, de prendre l'attention. Je ne sais pas si ça peut avoir un certain lien ou si pas en tout.
Sentiment d'imposteur?
Ouais, ah, mon Dieu, ouais. Ben, c'est peut-être traduit comme
ça. C'est un
bon
résumé.
C'est quelqu'un qui me dit salarié.
Ah, ben écoute, ton chuchoteux, il n'est pas pire.
Mm. Ben oui. Ben écoute, il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on se retient, mais des fois, c'est des excuses. Des excuses conscientes ou inconscientes, parce que tu n'as pas confiance, parce que tu n'es pas bien, mais parce que aussi, tu as peut-être vécu des expériences. Puis beaucoup de choses partent de l'enfance, malheureusement, ou heureusement pour ceux qui ont eu une enfance incroyable. Mais des fois, c'est des expériences d'éducation, mais d'autres fois, c'est des expériences en cours d'école que tu as mal assumées. Tu sais, tantôt, tu disais hors d'onde, puis je ne révélerai rien, mais tu disais hors d'onde, tu sais, moi, j'ai envie de guérir de mes blessures physiques quand je me suis blessée, parce que je n'ai pas envie de traîner ça. C'est un peu la même chose dans les blessures que tu as eues dans la vie. Puis des fois, ça n'a pas été si gros, mais ça a été répétitif. Les gens pensent que les blessures, c'est nécessairement le gros choc, là. Tu sais, le gros événement qui est arrivé dans ta vie. Des fois, quand je fais de la consultation, je vais demander, avez-vous des choses qui ont marqué votre vie? Tu sais, y a-tu des choses? Non, moi, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu des bons parents, j'ai eu une belle vie. Mais finalement, quand on creuse, il y a peut-être eu des choses à répétition qui passaient sous le couvert parce qu'on s'y est habitué. C'est pas nécessairement juste ces grosses choses. Des fois, c'est le syndrome de la goutte d'eau.
C'est quoi ça?
Ça veut dire quelque chose de pas si gros, une goutte d'eau, mais qui est répétitif. Tu sais, une goutte d'eau, ça peut faire un trou dans un rocher, là, après des années. Mais tu sais, si, à toutes les fois, je vais te donner des exemples.
C'est un supplice en Chine.
Oui, pour vrai.
C'est le supplice de la goutte d'eau.
Oui.
Tu me niaises pas, là?
Non. Oui, c'est vrai,
fait
ça.
T'es couché, t'as la tête attachée par en arrière, puis il y a une goutte d'eau qui te tombe dans le front jusqu'à temps qu'elle traverse la calotte crânienne.
En même place, tout le temps.
Oui. C'est un gros lundi.
Oh mon doux Seigneur.
Mais pense juste à la goutte d'eau qui tombe dans l'évier, là, pour que tu commences à t'énerver. Oh, ouais, imagine qu'elle tombe dans le front.
Oh, mon Dieu.
Oui.
Est-ce que... Tu sais, parce que je pense que tout le monde comprend qu'un jour ou l'autre, tu sais, si on veut être heureux, il faut prendre sa place, OK? Mais on a souvent rencontré des gens autour de nous. Des fois, ça peut être notre conjointe, nos amis. Ça peut être nous-mêmes aussi. Des gens qui sont incapables de prendre les compliments. Comme si ces compliments-là qui leur étaient dirigés vers eux, qui sont sincères, c'est comme si ces gens-là disaient « mais je mérite pas vraiment ça ».
Ah, mais...
Ça revient-tu à la personne, comment elle se sent en dedans?
Oui. Oui, mais aussi un regard sur notre société. Avez-vous remarqué, de façon générale, les gens sont mieux disposés à accepter les affaires plates que les belles affaires? On reste comme mal à l'aise. Je dis pas tout le monde, mais il y a un... Écoute, des fois, en conférence, je m'amuse à dire...
Comme si on le méritait pas, tu sais.
Ben, comme si... On revient avec le judéo-chrétien, mais
des fois, en conférence, je demande, mettons une salle de 300-400 personnes, des fois, je vais faire l'exercice, dire, OK, pensez à quelque chose que vous faites de mal. Vivez-vous. Hey, là, mon gars, ça se lève, là, plou, 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 plou. Après ça, je leur demande de s'asseoir, je dis, pensez à quelque chose que vous faites de bien, dont vous êtes fiers de vous autres, une réussite ou tu sais, une qualité que tu as de fort qui te permet de réussir. Hey, ça me prend du temps avant que... Puis il y en a qui ne seront jamais capables de se lever, tu comprends? Fait qu'on a peut-être effectivement à s'interroger sur la capacité d'accepter les compliments. Puis c'est pas d'être orgueilleux, c'est pas d'être ouais. pense bon. Ça te nourrit l'estime. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il y avait trois façons de réagir quand on vous fait un compliment? Vous ai-je déjà parlé de ça? Non.
Ça me dit rien, moi.
Non. Donc, dans notre société, il y a trois façons de réagir. Bien, il y a premièrement à dire merci, ça me fait du bien, ce qui arrive assez rarement, mais bien, qui peut arriver, là. Mais si je te fais un compliment, mettons que je te dis, Yannick, mettons je te dis, on va commencer par lui parce que des fois, il se sent rejeté, là. Fait qu'on va commencer par Yannick.
On prend soin
Yannick.
De lui. Je prends soin de lui.
OK. Donc, mettons que je dis, Yannick, je trouve que être avec toi à la radio, c'est se sentir en sécurité. Parce que tu mènes bien ton bateau, tu sais. Alors, le premier réflexe, c'est de prendre ce compliment-là et de faire comme si c'était une moufette, ça sent pas bon, puis de le retourner à l'autre. C'est comme si tu ne pouvais pas l'accueillir puis te faire bon. Donc, le premier réflexe, c'est « Ah, mais toi aussi, Paul, quand on est avec toi, ça fait des années que j'en fais avec toi, puis... »
J'ai jamais dit ça.
Non, mais je te propose de le dire, ça serait le fun. Mais non, mais je te fais des... Mais tu comprends? Le premier réflexe, c'est ouais. de complimenter l'autre.
On dirait que c'est lui qui revient le plus, celui-là.
T'es belle. Ah, oh, toi aussi.
Ouais, je vais te donner un autre exemple que je vois beaucoup chez les femmes. C'est pas un bagage à préjugés, là. C'est mon observation de psychologue de Wish.
Okay? On te dira ça si t'as raison.
Quand une femme dit un compliment sur les vêtements d'une autre personne... Cette personne-là qui reçoit le compliment est toujours portée à dire « Non, non, ça, c'est vieux, ça. »
Ou « C'est mon deuxième.
Hey, oui. J'ai acheté ça à friperie, là. C'est rien, c'est rien. »
Tellement bon, c'est mon deuxième.
C'est weird, hein?
Ben, non, mais c'est vraiment... Le premier, donc, c'est de retourner le compliment à l'autre. Le deuxième, c'est exactement ce que tu viens de dire.
Réduire.
C'est dénigrer le compliment qu'on vient de te faire. « Voyons, c'est vieux. J'ai pris ça chez Walmart. J'ai payé ça 3$. » C'est
oh,
maman qui avait...
Dieu.
Oui,
il y a full de filles qui font ça.
Mais non, mais t'as full raison. Puis là, tu parles des vêtements, mais moi, c'est les cheveux aussi, des fois. Ah, oh, mon Dieu, en plus, ils sont sales.
Ouais, ouais.
Oh,
oui.
Oh, mon Dieu, tu sais, on a comme le
oui.
c'est un, t'as oui. raison, Yann. T'as
ouais,
pas tort.
Ça, c'est le numéro 2.
On est vraiment mal chié.
Ben, hey, pour vrai, oui.
En fait, on crève de faim, puis on se nourrit pas au buffet que les autres nous donnent.
C'est épais quand tu y penses. Hein?
Ben là, lève-toi le cul et va te servir. Ben oui, on t'offre un buffet au lieu de rester assis. Puis la troisième façon, donc Yannick, tu avais la deuxième tout à fait. La troisième, c'est de devenir suspicieux.
Pourquoi elle me dit ça?
Ça, c'est Yann.
Pourquoi?
Yann, il se méfie de beaucoup de choses.
Ben, tu sais, je donne comme exemple, souvent, ton chum arrive à la maison, il t'a apporté des fleurs, il fait trois compliments de fil, tu dis, c'est quoi ça? Quoi? Ou tu es ta machine à café au travail, la personne te parle, mais c'est pas ta baisse. Puis un matin, elle te fait deux compliments. Tu reviens avec ta baisse, tu dis hey, je sais pas ce qu'elle avait un matin. Elle.
Tentative de me contrôler.
Comment ça se fait qu'elle me fait.
Tu me l'as fait deux, trois semaines.
Je t'ai contrôlé.
Ben non, mais je t'ai dit que je t'appréciais puis je t'aimais beaucoup. Qu'est-ce que tu veux?
Ouais. Ben, ouais. Je pense que chez
c'est
Yannick.
C'est quoi ton problème?
Ça vient-tu avec un service, cette affaire-là?
Ben, tu vois, on est dedans. Mais chez Yannick, ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'il y a un grand malaise à accueillir les compliments. Fait qu'il va virer ça en humour.
Ouais, je pense qu'on est tous comme ça.
Les gars ont une tendance. Les gars, tu disais les filles, mais les gars, ce que je remarque, vous utilisez mieux l'humour que nous, très souvent. Puis, vous avez tendance, quand il y a un malaise, peu importe lequel, pas juste les compliments, mais quand il y a un malaise, vous portez ça à la dérision, à l'humour, il y a une tendance, mais vous le maîtrisez mieux. Donc, c'est une technique qui est plus utilisée chez les boys. Les filles, un peu moins.
Puis, on devrait faire quoi? Juste merci?
Bien,
cool. Ça, c'est vide.
OK, Yannick, on va pratiquer. Faites-nous un compliment, moi, puis Audrey, puis on va te dire
bon,
comment
ça.
On doit faire.
Tabarnouche, Yann, oui. Vas-y donc.
Vas-y, force-toi.
Écoute, Audrey, t'es gentille.
Hey, ça, c'est les petits pas fins à l'école qui savent pas quoi dire, qui font ça.
Sympathique.
C'était sans effort, ça.
C'est sans
vide,
effort.
Là,
hey, t'es gentil.
T'es trop gentil. Tu peux pas être ma blonde. Tu peux
c'est un complimarde. Ça, c'est un complimarde. C'est pas un compliment.
Non, c'est dur.
Les filles nous disaient ça au secondaire. C'est le temps de se revenger, boys. Ben, t'es gentil, là. T'es une bonne collègue.
Il est vraiment pas bon.
Il est pas capable. On va travailler ça jeudi.
Hey, okay? Oui, ça fait partie je pense que je vais prendre une note.
Attends un peu. On va laisser avec les auditeurs. 418-971-1021, dites des belles choses à Audrey.
Non, non, t'es bon là-dedans. Tu rejettes par l'autre. Dites des belles choses à Yann. Qu'ils l'accueillissent comme du monde. Des choses que vous pensez, Yannick, positives.
Audrey, à toi aussi, ça ferait du bien.
C'est possible, mes ex ne pas m'écrire. Merci.
Oui. Oh, mais t'as des bonnes relations avec tes ex, d'habitude. T'entretiens ça.
T'es bon
là-dedans. Donc, trois façons de nourrir l'estime par des compliments qu'on va boycotter. Fait que tu vois, prendre sa place, c'est aussi, bien sûr, nourrir. Puis, tu sais, un autre truc, c'est que je trouve qu'on dit trop ce qu'on veut pas au lieu de dire ce qu'on veut. Prendre sa place, c'est être en action, c'est pas être en réaction. Quand je dis ce que je veux pas, je suis en réaction. Commence par dire ce que tu veux. Je veux pas que tu me parles d'en même, je veux pas que tu me dises ça, je veux pas que... T'es en réaction. Quand t'es en action, c'est « Yannick, j'aimerais ça que tu me parles de cette façon-là. Yannick, quand tu fais ceci, je suis pas à l'aise. » Donc, dites ce que, que tu veux au lieu de dire ce que tu veux pas. Vous remarquerez, très souvent, on perd beaucoup de temps à dire ce qu'on veut pas, puis on finit pas par dire ce qu'on veut. Fait que l'autre, tout ce qu'il a accueilli, c'est « Lover, t'en peux plus, puis tu y dis. » Mais tu finis pas par dire ce que tu veux. Ça, c'est une façon de prendre sa place. Ça a l'air de rien, là, mais... Puis des fois, je visualise ça avec les parents, quand je travaille avec eux, dire... Au lieu de dire à un enfant, toi, les doigts dans le nez, va te chercher un mouchoir, fait juste dire, va te chercher un mouchoir, la job est faite. Non, mais... Puis là, si on gradue avec les adultes, bien, c'est un quotient de difficulté plus élevé, mais ça, ça fait partie de... Puis aussi, informe au lieu de te justifier. Ça, c'est revenu souvent à la justification, Audrey, je te vois, dans mon angle mort, mais informe l'autre au lieu de chercher son approbation. Je t'informe que à partir de maintenant, ça va être ceci. Au lieu d'essayer de le convaincre. Se justifier, les amis, si vous retenez juste ça aujourd'hui, se justifier, ça en met beaucoup trop. C'est ajouter du gravy où on n'en a pas besoin. C'est essayer de supplier l'autre. Donc, c'est donner le pouvoir à l'autre.
Bien, on dirait, puis je comprends, puis le pire, c'est que tu as raison, Paul, là. Mais dans la justification, pour moi, des fois, il y a une forme de respect. C'est comme si je refuse quelque chose, bien, je veux que tu saches qu'il y a un fondement pourquoi je le refuse. Je ne fais pas juste refuser.
Mais si tu l'informes puis tu l'expliques, il y a une différence entre ça puis se justifier. Faut que tu comprennes. Donc, on essaye de supplier l'autre. Quand on informe, dire « Écoute, je suis arrivée en retard, il y avait du trafic. » Tu as informé l'autre. Exemple de justifier, je suis arrivée en retard, je suis tellement désolée. Écoute, j'ai fait mon possible, j'ai déjeuné avant de partir, puis je te jure, je regardais ma montre 20 fois avant de... Souvent, quand t'en mets trop, tu te justifies, tu sais, juste te donner un truc, là. Quand on informe, habituellement, c'est clair, net, précis, sans trop. C'est la simplicité volontaire informée.
C'est difficile!
Pour ce qui est de l'exemple du trafic, Audrey, je pense que toi, t'as passé outre ça. Là.
Ouais, moi,
souvent, tu me dis, je pars de chez nous, je vais être dans le trafic, ça se peut, j'arrive en retard.
Ouais.
Et c'est assumé.
Mais ça, c'est informé, t'es parfait.
C'est très assumé.
Mais c'est un très bon exemple.
Puis je pense que c'est avec les gens qu'on connaît moins, ou au travail en général, quand tu veux pas déplaire ou t'as peur de la réaction de l'autre ou de décevoir, je sais pas.
Oui, dès qu'il y a un malaise, disons-le.
Ouais.
Dès qu'il y a un malaise, on est à risque de devenir pas bon. Parce que le malaise finit par nous amener en réaction plutôt qu'être en action. Fait que prendre sa place, c'est pratiquer. Puis des fois, les gens disent « Je suis pas bon là-dedans, Paul. » Ben oui, mais c'est pour ça que tu me payes tant de l'heure. C'est pour ça que tu me consultes.
Puis c'est oser aussi prendre sa place. T'sais, moi, j'ai vu dans une entreprise une personne être choisie alors qu'elle n'avait pas postulé pour un poste qui était plus haut gradé que le poste qu'elle avait. La personne a éclaté en sanglots. Là, parce qu'elle a dit « Pourquoi moi? » Elle était très contente, là. Mais elle a dit « Pourquoi moi devant tout le monde? » Parce qu'elle n'était pas au courant, puis on lui a annoncé devant tout le monde, mais elle n'avait jamais postulé pour ce poste-là. Mais elle se voyait tellement petite dans l'entreprise, puis elle avait tellement, à tout le temps, travaillé extrêmement fort, sans nécessairement penser qu'un jour, elle récolterait les fruits, que quand le patron lui a annoncé devant nous autres que c'est elle qui avait été choisie, elle a éclaté en sanglots en disant « Pourquoi moi? » Mais pourquoi pas toi?
Mais on dirait qu'on glorifie ça.
C'est toi qui es la meilleure. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Tu es toujours à l'heure. Tu rends tout le temps les services à tout le monde. Tu prends des bouchées doubles parfois quand c'est le temps de prendre les bouchées doubles. Puis là, tu es choisi. accepte-le. Oui. Mais je pense que ça revient un peu avec ce qu'on dit. Peut-être notre éducation, il reste encore un peu de religion là-dedans. Puis on est né pour un petit pain. Puis malheureusement, en tant que parent, même si tu ne veux pas le transmettre à tes enfants, mais tu le transmets sans le savoir.
Oui. Puis je crois qu'on vit avec une difficulté de s'assumer.
Ben oui. Parce que c'est mal vu, on dirait.
Ben, je pense que s'assumer vient aussi avec la volonté d'accepter que tu ne seras pas toujours à la place que les autres veulent. S'assumer veut dire que tu ne seras pas toujours au goût des autres.
Mais comment s'assumer... tu t'en débarrasses de ça, Paul? Parce que, tu sais, c'est toutes des choses
Audrey est en thérapie.
Ben, je me rends compte que oui.
Oui. Elle abuse de moi un peu parce que c'est gratis.
C'est la vie, oui, c'est ça. Bon, je vais te payer un café.
Moi, je passe pour ça qu'elle m'invite. Je t'en dois parce que...
Non, mais c'est que je sens qu'il y a tellement de gens dans la situation du, tu sais, le fameux people pleaser, là.
Ouais.
Puis des gens qui... Puis je sais pas si c'est une question de confiance, vraiment. Peut-être que ça part de là, d'une certaine façon, mais je sens que c'est vraiment la... C'est ça, la peur de déranger, de décevoir est plus grande que tout, puis il fait en sorte que, malgré tous les trucs du monde, c'est dur demain matin de juste assumer. Parce que ça te reste en tête. Tu sais, moi, je peux bien te faire à croire que j'assume quelque chose que je vais te dire, mais je te jure que, mec, je sois dans mon char, puis je fasse la route pendant 45 minutes, m'a ruminé. Puis il m'a demandé si je t'envoie pas un message vocal, finalement, pour comme essayer de me rattraper.
Mais tu l'as au moins essayé. Moi, je pense que c'est à s'exposer qu'on finit par... Puis c'est pas vrai que la vie, c'est un long fleuve tranquille. Puis ça s'apparente beaucoup plus à la bourse. T'as peut-être été bon pendant quelques mois, puis est arrivé un crash parce que t'as vécu une situation, puis ce que t'avais avancé à 5 pas, tu recules de 2. Mais si tu recules juste de 2, t'as toujours bien avancé de 3. Ce que ça veut dire, c'est si tu t'es assumé, mais qu'après ça, dans l'auto, tu dis « Oh non, 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 je peux pas croire, non? » Puis que tu résistes à l'idée de me renvoyer un message, bien, tu t'es assumé. Même si t'as eu mal, même si t'as été dans le malaise, même si... Ce qu'il faut que tu vois, c'est j'ai osé le dire. J'ai été tout croche. J'ai été tout croche avant, pendant, après. Mais je l'ai fait. Puis c'est beaucoup plus sur je l'ai-tu fait. Parce que le senti, lui, il va peut-être rester. Le sentiment d'inconfort, le sentiment de ne pas avoir dû le faire. Mais si tu l'as fait, c'est que tu es déjà passé à une vitesse supérieure. Même si tu as l'inconfort. Et plus tu vas t'exposer, plus l'inconfort va diminuer. Parce que ça, c'est de l'anxiété, hein. C'est la peur. Peur d'avoir été jugé, peur de ne pas avoir dit les bonnes affaires, peur que l'autre ait mal compris. Puis tu peux toujours vérifier, sans te justifier, bien sûr.
C'est pas une mauvaise chose non plus de se libérer, Paul et Audrey, du regard des autres. Ce que les autres peuvent penser de nous ne nous détermine pas nécessairement.
Mais peux-tu vraiment le faire ou c'est un mythe?
Ben moi, j'ai réussi à le faire. En vieillissant, j'ai réussi à
avant,
le faire.
Avant, tu t'en souciais, puis ben, oui, je savais, dans ma tête, t'as toujours été de même. Non, mais c'est vrai.
Il était pire que ça.
T'as un certain détachement, tu sais.
Oui, j'ai un détachement, mais je me suis libéré de ça. Je te dirais vers à peu près 30, 32, 33, 34 ans, là, je me suis libéré de ça. Peut-être que les enfants m'ont beaucoup aidé, tu sais, à maturer un peu plus rapidement, parce que si j'avais pas eu mes enfants, je serais encore un peu débile. Là. Mais se libérer du regard des autres, tu peux pas contrôler. Puis je regarde mon meilleur ami, qui m'écrit souvent, Roger, qui me déteste comme il m'aime, c'est particulier. Mais,
amour-haine?
Mais trop souvent, je pense qu'on vit dans le regard des autres, que ce soit notre... ben c'est sûr que c'est important de savoir ce que notre conjoint ou notre conjointe pense de nous, mais pour ce qui est des gens qui ne nous connaissent pas, personnellement, c'est-tu si important leur opinion? Ben, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? À mes yeux, à moi, puis en vieillissant, c'est qu'est-ce que moi, je pense de moi? Est-ce que je suis une bonne personne? Je suis quelqu'un d'honnête ou je suis quelqu'un de malhonnête? Est-ce que je suis malicieux ou... Écoute, j'ai fait de quoi? Ça a vraiment de l'air malicieux, selon ce que tu me mentionnes, mais c'était vraiment pas intentionnel, tu sais. C'était vraiment pas prévu que je fasse cette affaire-là devant toi, puis je m'en excuse.
Ça va avec se donner le droit à l'erreur aussi. Se donner le droit à l'erreur, ça veut dire, ben j'ai essayé quelque chose, j'assume que je ne serai pas parfaite, mais j'ai au moins essayé quelque chose. Puis pour te répondre, Audrey, puis peut-être que ce ne sera pas la meilleure des réponses, mais si je regarde moi, là, j'étais comme toi fois mille, OK? Et aussi parce que, ben aujourd'hui, on en parle, puis peut-être qu'il y a quelques années, on gardait tout ça pour nous autres,
ouais.
Mais aujourd'hui, on en parle, Dieu merci. Puis sais-tu ce qui fait qu'on évolue? C'est le répertoire. C'est qu'en vieillissant, on devient avec un répertoire de choses qu'on a vécues. Et dans ce vécu-là, tu finis par relativiser, tu finis par apprendre des choses, tu finis par te mettre en danger. Tu as un répertoire de déjà-vu. ah ouais, c'est vrai, j'ai déjà vécu, puis finalement, tu sais, t'as un répertoire qui te permet de référer. Mais quand t'es plus jeune, puis je pense qu'en vieillissant aussi, on remarque comment la vie est précieuse. C'est plus donné, là. Tu te rends compte que c'est pas de l'acquis, la vie. Puis tu te poses la question, comment j'ai envie de la vivre? Puis tu comprends aussi qu'il y a des gens dans ta vie qui ont été importantes, qui t'ont quitté. Il y a des nouvelles relations qui sont arrivées. Il y a eu des dates d'expiration. Tu comprends que si tu avais vécu pour les personnes qui sont plus dans ta vie, tu aurais perdu une grande partie de ta vie.
Tu te souviens-tu des statistiques concernant les gens qui vont se présenter à tes funérailles? Oui. On avait vu passer
ça.
Oui.
Ah, c'est quoi? Ça m'intéresse.
Ben écoute, c'est à peu près, mettons, sur 100 % des gens que tu as rencontrés dans ta vie qui seraient susceptibles d'aller à tes funérailles, il y en a à peu près une trentaine qui pourraient se présenter, sur 100 % des gens. Fait que donc, 30 % pourraient peut-être se présenter.
Pourraient.
Mais techniquement, ça va être à peu près entre 5 et 10 % de ces gens-là ont l'intention de se présenter. Ouais. Puis s'il pleut, tu coupes de moitié.
Ah oui.
C'est fou pareil, hein?
Fait que, il n'y a plus grand monde, finalement.
Non, c'est triste. Là.
Il n'y a pas grand monde à mon enterrement.
Ce que les gens intelligents disent, c'est concentre-toi sur les gens qui, peu importe le temps qu'il va faire, vont aller te dire un dernier adieu. Puis pour les autres, c'est des gens qui ne seront juste que de passage dans ta vie. Tu n'as pas besoin de les envoyer chier.
Ben non.
Mais c'est des gens sur lesquels, tu sais, dépenser de l'énergie en trop, c'est pas correct.
Absolument. Puis, sais-tu quoi? J'ai remarqué que plus tu t'assumes, plus on te respecte. Mm. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût de continuer. Puis je suis loin d'être parfaite. Je vais te dire que je travaille ça tous les jours.
Mais c'est ça. Tu l'as dit. T'es loin d'être parfaite. Les gens détestent les gens qui se considèrent comme parfaits.
Mais c'est pas possible.
Non. Tu sais, mais je donnais un exemple à mes élèves. Puis j'en avais déjà parlé aux auditeurs. Tu sais. Je parlais avec les étudiants qui voulaient devenir des gens qui travaillent à la radio, à la télé, qui voulaient être des kings dans le podcast. Puis je disais, tu sais, il y a... Puis là, je vais donner des noms, là, parce que je les avais dit dans le cours, mais tu sais, je pense pas que Grégory Charles se considère comme parfait. Mmh. Sauf qu'à la télé, Grégory Charles, regarde, il est bon dans tout ce qu'il fait. Il travaille avec les enfants. C'est un artiste incroyable. Chanteur, on repassera. Mais c'est un artiste incroyable.
Très accompli.
Tu sais, au piano, je veux dire, quand il s'assoit puis il joue au piano, prodigue, tu te dis, c'est un prodige.
Ah oui.
Bon. Bien, à la télé, ça n'a jamais bien passé, Grégory Charles. Ils ont essayé de donner des quotidiennes, ça n'a jamais bien fonctionné. Par contre, t'as Julie Snyder qui est tout croche, puis elle est imparfaite, puis elle s'accepte dans son imperfection. Elle essaie de parler anglais alors qu'elle parle pas anglais pantoute.
Mais elle assume.
Puis les gens l'adoraient.
Parce que tu te reconnais là-dedans,
soyez
Yannick.
Soyez juste vous-même, puis essayez de penser que vous allez toujours être parfait. Si vous faites, moi, je fais de la radio pendant 5 heures à tous les jours. Le nombre de fois dans ma tête, je me dis, c'est pas ma meilleure, celle-là. Là. C'est à peu près 10 fois par jour. Mais faut que tu l'acceptes, ça.
Oui, faut que tu passes à autre chose.
Parce que sinon, ça fait mal, là, avoir de l'air tout le temps, tu sais, l'impression que, voyons, pourquoi ça sort pas comme je pensais? Pourquoi l'opinion qu'au départ, je pensais avoir, je suis pas aussi conforté dans cette opinion-là une fois que je l'ai dit, tu sais. Il me semble que je pourrais peut-être penser le contraire. Tu sais, de douter, c'est bon. Mais les auditeurs vont savoir, que ce soit les auditeurs, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit vos amis, si vous n'êtes pas intègre avec vous-même puis avec eux, ça va se sentir. Ouais. Chez les collègues, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se croit parfait. Il n'y a personne qui est parfait, là. Mais quelqu'un qui veut avoir de l'air parfait devant tout le monde va passer pour un monstre dans son entreprise.
Ah, et puis l'authenticité, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant. Puis moi, je dis tout le temps, avant ça, je voulais que tout le monde m'aime, ce qui est impossible, mais je voulais. Aujourd'hui, je me dis, t'es pas obligé de m'aimer, mais t'es obligé de me respecter.
Oui, et c'est bien dit, ça.
Tu sais, t'es pas obligé de m'aimer, là. Je peux pas te forcer à m'aimer.
Mais on se doit le respect.
Mais tu dois me respecter. Puis c'est plus là-dessus que je travaille. Donc, mon évaluation, c'est, ben peut-être qu'ils m'ont pas aimé, ils ont pas aimé mon style. Mais s'ils m'ont respecté, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de toi...
Ça fait mal pareil, là. Il n'y a rien de confortable là-dedans.
Mais c'est de même... Moi, je dis tout le temps qu'un coup de pied au cul, ça te fait toujours avancer, même si tu en tombes en pleine face à terre. Mm. Fait que tu remarqueras que dans ta vie, si tu as grandi puis tu as avancé, c'est pas parce que c'était facile.
Mm-hmm.
C'est parce que c'était difficile, parce que tu t'es trompé, parce que tu as eu l'air folle. Tu sais, moi, quand je suis rentrée travailler avec la jupe d'un culotte, puis ils m'ont tout vu les bobettes, tout ça avec qui je travaillais.
C'est pas vrai. C'est vrai, pas.
Ben, regarde comment il est empathique, il a du mal.
Ça t'est arrivé pour vrai.
Bon, oui, c'est vrai.
Arrête.
C'est très vrai, je l'avais-tu déjà.
Oui.
Ouais.
C'est incroyable, cette histoire-là.
Ben oui, ben écoute, je travaillais à Saint-François-d'Assise en psychiatrie.
Ah, oh, mon Dieu!
Ben oui, puis je travaillais avec des... Puis j'étais pas mal plus jeune. Puis tu sais, déjà, il y a comme un décalage horaire, puis tu vois les autres comme beaucoup plus que toi.
Ouais.
Puis je travaillais avec des psychiatres, puis ils étaient pas tous gentils, dont le chef, que je pouvais pas supporter. Écoute, c'est un matin d'automne, mais pas assez, tu sais. Fait que j'ai... des petits, tu sais, les bas là, que tu mets avec une jardinette.
Ah oui, oui, oui. Des bas collants. Là,
des bas collants, ouais. Mais qui arrêtent en haut de cuisse, là, tu sais, ouais. Avec la petite dentelle autour. Ouais. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que j'ai pas de collant, rien. Je suis en bobette, là. Puis j'ai une petite robe avec un élastique autour. Puis en sortant, comme il fait froid, j'ai un manteau, j'ai des livres. Je prends mon stock, puis ma robe, elle reste comme prise dans les livres, si tu veux. Puis elle pogne dans l'élastique. Fait que là, je me dis, lui, il rit. Là, j'ai froid, tu sais, c'est pas chaud, c'est l'automne. Puis là, je saute, là, tu sais, oui, c'est pas chaud. Fait que la robe, elle roule dans l'élastique.
Ah, non,
parce que là, elle frotte sur les choses que je tiens dans les mains. Puis comme j'étais pas médecin, puis que j'étais qu'une trou de cul éducatrice spécialisée, j'avais pas le droit de me stationner dans le stationnement. Il fallait que je stationne dans les rues, à Limoilou. Fait que j'ai grand marché. Fait que beaucoup de monde m'ont regardé.
Personne ne le dit.
Dans le stationnement, j'ai rencontré Dr Plante, pour pas le nommer. Okay. Et il me dit rien. Puis lui, là, on s'entendait pas. J'ai rencontré je sais pas combien de monde dans le stationnement. Personne me l'a dit, là. Quand je suis rentrée, il y avait le petit monsieur avec la casquette, tu sais, le garde de sécurité.
Ouais.
Je trouvais qu'il me regardait drôle ce matin-là. Il n'a pas parlé. Personne n'a parlé. Quand je suis arrivée, tu sais, les fenêtres, là, avec le soleil, ça fait comme un reflet miroir. J'ai fait, voyons donc, tout ce que j'avais, c'était un haut de robe avec des bobettes. Personne ne me l'a dit.
Tout est parfait. Tout est parfait.
Mais il a fallu que je... Non. Va sur le diable, Yannick Marceau. Ça t'est arrivé des affaires dans la main. Tu devrais être compatissant. Puis là, il faut que tu retournes travailler.
Confronter tous les regards.
Confronter tous les regards, tu sais. Puis la seule chose intelligente que j'ai trouvé à faire, là, c'est de ne pas cogner, de rentrer dans le bureau de Dr Plante, qui était le premier chef psychiatre. Hey, je le nomme, c'est pas correct, mais il doit être mort, ça fait longtemps. Puis je suis rentrée, puis je l'ai regardé, puis là, tout le monde le vénérait, puis vous voyez, c'était quelqu'un... Il y avait un chapeau, une cape, juste pour te montrer comment... J'aurais pas dû le nommer. En tout cas. Puis, j'y ai dit, je l'ai tutoyé, j'ai dit, regarde-moi bien dans les yeux, alors que tout le monde voyait, regarde-moi bien dans les yeux. Toi, si ta braquette est à terre, c'est pas moi qui va te le dire. Je suis sortie en claquant la porte. Il a demandé ma démission 24 heures plus tard, qu'il n'a pas eu.
Ouais. Oh, tout était parfait. Voilà. Bon, j'ai vu un des maires de Québec qui est malheureusement décédé aujourd'hui. J'étais pas très vieux. J'avais été embauché pour un vernissage dans le Vieux-Québec. Et quand c'était une soirée très guindée, là. Puis moi, j'arrivais avec la bouffe. Puis je l'ai vu sortir des toilettes avec le papier de toilette à terre qui était collé en dessous de son soulier.
Y a-tu dit?
Ben, je l'haïssais pour mourir.
Ah, ça, tu y as pas dit?
J'y ai pas dit. Puis je l'ai laissé se promener dans le truc de vernissage pendant...
Kill them with kindness.
5 minutes.
C'est de la vengeance.
Avec son papier de toilette à terre. Donc, on salue l'ex-maire Lallier qui participait à des vernissages, mais c'était de toute beauté. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, il nous reste 10 secondes. Tu avais un objectif aux gens qui veulent... un objectif à donner aux gens qui veulent prendre leur place
prendre
dans la
place.
Vie.
Prendre sa place. J'ai envie de dire, rien n'est acquis. Il faut pratiquer pour devenir bon. Commence par te faire la liste de 10 petites situations qui vont te donner le goût de dire « je ne l'ai jamais fait, j'ose malgré ma peur, malgré le fait que je ne me sens peut-être pas à la hauteur ». Fais-le l'exercice. 10 petites choses, c'est en pratiquant qu'on vient bon. Pour devenir virtuose, il n'y a pas d'autre moyen que de pratiquer.
J'aime ça beaucoup. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, pour les gens qui veulent te voir en conférence, on te trouve à quel endroit?
Paul Lévesque, yahoo.ca, paullevesque.com, c'est pas ça, c'est .net. Merci.
Ouais. On tombe sur un tout autre site.
Ben oui,
c'est son alter ego, ça.
Paul Lévesque, pas d'accent sur Facebook, les cheveux rouges. Puis vous pouvez appeler mes amis ici.
Toujours un plaisir, puis on se reparle dans quelques jours.
Oui.
En fait, c'est jeudi. Salut, bye bye. Rage Against le